Bonjour tout le monde! Bienvenue à Minute Pharmacie de la QPP. Le balado est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Marie-Pascale Beaulieu, je suis directrice des services pharmaceutiques à la QPP. Aujourd'hui, on vous parle du programme de récupération élargie des producteurs qui vient changer la donne pour la récupération des médicaments en pharmacie. À ce sujet, on va discuter avec Geneviève Pelletier, directrice principale services pharmaceutiques et affaires externes de la QPP. On vous annonce aussi les deux formations qui sont à venir. Et on va poursuivre en vous parlant du nouveau service d'Accessa. On va terminer, comme à l'habitude, en répondant à deux questions des auditeurs. Des changements importants vont s'opérer dans vos pharmacies le 30 juin prochain. On parle ici de la façon de récupérer les médicaments que vous ramènent les patients en pharmacie. Il faut savoir que les produits pharmaceutiques ont été ajoutés au règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Ce règlement-là vient s'appuyer sur le principe suivant. Les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont responsables de leur gestion en fin de vie. C'est le principe là, de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, à la QPP, on est heureux de voir que ça se concrétise parce qu'on a été très actifs dans ce dossier-là pour défendre les intérêts des pharmaciens propriétaires. Pour mieux comprendre comment l'application de ces règlements-là va se traduire notamment sur vos opérations, on vous a présenté deux webinaires en collaboration avec l'Association pour la récupération de produits de santé, ARPS. Puis, on avait pour but là, de vous éclairer puis vraiment vous donner tous les détails. Si vous n'avez pas pu y assister en direct, les séances seront disponibles en différé. Les liens pour retrouver ces séances seront dans les notes du balado. On reçoit aujourd'hui Geneviève Pelletier. Elle est directrice principale affaires externes et pharmaceutiques à la QPP. Elle va nous parler de la responsabilité élargie des producteurs. Salut Geneviève, merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir, Mère Pascale, d'être ici pour parler de ce dossier.
Donc, peux-tu nous dire un petit peu d'entrée de jeu, pour ceux qui seraient moins familiers avec ce dossier-là, en quoi ça consiste concrètement?
Bien, en fait, ça veut dire que les entreprises responsables de la mise en marché des produits pharmaceutiques auront l'obligation d'offrir et de financer des services pour permettre la collecte et l'élimination sécuritaire des produits à l'échelle du Québec. Donc, concrètement, les produits visés par le règlement sont les médicaments, les produits de santé naturelle et les objets piquants, coupants ou tranchants qui sont utilisés à des fins médicales.
OK. On comprend donc que ça va venir enlever un fardeau aux pharmaciens propriétaires. Sachant que ce règlement a été l'aboutissement là, d'un long travail, peux-tu nous dire quelles ont été les démarches de la QPP dans ce dossier-là au cours des dernières années?
Oui, en fait, ça a débuté avant mon arrivée à la QPP. Donc, les premières réflexions et analyses remontent là jusqu'en 2019. La position de la QPP était très claire. La responsabilité de récupérer les médicaments ne devrait pas retomber uniquement sur les épaules du pharmacien propriétaire ou de la pharmacienne propriétaire. Donc, on a agi en amont sur ce dossier-là en militant pour que les produits pharmaceutiques soient ajoutés au règlement du gouvernement du Québec sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. C'est un long nom de règlement. Entre autres, en déposant un mémoire en 2019. Donc, on a aussi multiplié les démarches auprès des instances concernées, notamment auprès du ministère de l'Environnement, qui est le porteur de ce dossier au gouvernement. En raison que l'interlocuteur dans ce dossier est le ministère de l'Environnement, donc l'approche était différente que lorsqu'on a nos autres dossiers qui touchent plus les soins de santé. Donc, notre cheval de bataille principal était vraiment de faire comprendre l'empreinte écologique que peuvent causer les médicaments si ceux-ci ne sont pas récupérés et détruits adéquatement. Donc, en effet, en raison de l'élimination inadéquate de ces médicaments, il y a des traces des médicaments qu'on peut retrouver dans la nature, soit dans le sol ou dans l'eau. Donc, le fait que certaines provinces avaient aussi déjà en place des programmes de la sorte, ça a quand même été un argument fort là, pour ce qui était de la faisabilité du programme pour le ministère. Le gouvernement a finalement déposé officiellement son projet de règlement en 2021, sur lequel la QPP a émis ses commentaires. Notamment, on voulait clarifier les responsabilités des pharmaciens lorsque le producteur n'avait pas de place d'affaires au Québec. Par la suite, on a vu beaucoup d'étapes législatives, donc en 2022 et 2023, et puis finalement, le tout s'est déployé sur le terrain et sera en place pour les médicaments, les produits pharmaceutiques en 2024.
On voit vraiment que c'est tout un processus, c'est vraiment une longue feuille de route. C'est un gros wow, là. Tu mentionnais aussi que ça avait un certain fardeau financier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, là, concrètement, qu'est-ce que ça représente comme économie pour notre réseau, pour chaque pharmacien?
Bien, comme on le sait, les pharmaciens ont une obligation, selon le code de déontologie, de reprendre les produits qui sont rapportés par les patients et d'assumer la destruction selon les règles de l'art, donc selon les règles en matière de protection de l'environnement. Puis cette obligation représente en effet un fardeau administratif, financier, mais aussi opérationnel pour nos membres. Pour le volet financier que tu mentionnes, on estime qu'en moyenne, chaque pharmacie assume un frais annuel d'environ 1 500 $ pour la récupération sécuritaire des produits. C'est un total là, de près de 3 millions pour notre réseau au complet. Donc, c'est vraiment une somme significative qu'on a réussi à faire économiser à nos membres.
Ça, c'est particulièrement pour le retour des patients. Le règlement concerne uniquement ce que les patients nous rapportent à la pharmacie, c'est bien ça?
Exactement. Donc, les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires vont devoir prévoir là, des contrats qu'on appelle maintenant des contrats commerciaux, là, probablement avec votre fournisseur ou avec lequel vous faites affaire déjà pour les produits là, qui seraient, exemple, le résultat d'une campagne de vaccination que vous offrez. Donc, pour récupérer les seringues, aiguilles utilisées, bien là, ça irait dans un autre type de récupération de médicaments. Mais évidemment, là, le gros du volume, c'est ce que les patients nous rapportent. Donc, vraiment, l'économie, vous allez la ressentir.
Super. Hey, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir pris le temps de revenir sur l'historique. C'est quelque chose qu'on fait là, en arrière-scène, je trouve. Puis, je trouvais que ça valait la peine de mettre la lumière sur tous les processus, les étapes qu'on a mises en place là, pour faire le déploiement de ce nouveau règlement. Donc, merci beaucoup. Ça témoigne vraiment de l'effort de la QPP dans ce dossier. Bravo à toute l'équipe.
Merci.
On poursuit avec deux messages d'intérêt concernant la formation continue. Donc, le mercredi 25 avril à 19h aura lieu un webinaire portant sur la maladie de Lyme. L'objectif est de vous familiariser avec l'évaluation d'un patient présentant une morsure de tic, la prophylaxie de la maladie de Lyme, ainsi que l'amorce de ce traitement en pharmacie en fonction là, de l'entente AQPP-MSSS. En effet, la règle 31 de l'entente prévoit un tarif pour évaluer le besoin de prescription pour cette condition. Donc, le webinaire vise à vous aider à reconnaître les différentes présentations de la maladie pour pouvoir prescrire le traitement prophylactique dans un délai approprié et favoriser la collaboration interprofessionnelle positive dans ce contexte. Le lien pour vous inscrire est dans les notes du balado. Une autre formation à venir est celle sur les troubles dépressifs et psychiatriques. Une occasion de mettre en lumière votre rôle clinique et celui de votre équipe est de vous familiariser avec les différents actes professionnels de l'entente AQPP-MSSS dans ce contexte. C'est ce qu'on va faire là, pendant la formation. Cette formation-là aura lieu le 28 mai à 8h. Surveillez notre bulletin magistral. Côté d'Accessa, l'équipe a mis en place un nouveau service d'accompagnement personnalisé. On en avait glissé un mot lors d'un balado passé quand on a parlé avec Jean Boursier. Le but est de vous apporter un maximum d'appui dans vos opérations et d'optimiser la participation de votre pharmacie à Accessa. Vous-même ou un membre de votre équipe en pharmacie peut prendre rendez-vous avec un des experts d'Accessa et discuter de vos besoins, des moyens à mettre en place pour devenir plus efficace avec Accessa. Que ce soit pour de l'aide avec la plateforme Curo ou avec une réclamation ou encore pour inscrire vos patients sous traitement, l'équipe d'Accessa va prendre le temps qu'il faut pour vous guider pas à pas et répondre à toutes vos questions. Fait que n'hésitez pas à les contacter. L'adresse, c'est la suivante. Donc, c'est relations avec un S, pharmacie avec un S, @accessa.ca. Avec cette adresse, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez poser votre question directement. L'équipe va être là pour vous soutenir. Enfin, si vous avez manqué la séance d'information du 18 avril dernier, sachez qu'elle va être disponible en différé. Vous allez recevoir un bulletin à ce sujet. On passe maintenant aux questions de la semaine. Donc, on nous pose fréquemment des questions sur la facturation du service de mise en pilulier pour les patients assurés au privé. Donc, la question est la suivante. Puis-je facturer la mise en pilulier de mes patients assurés au privé, éligibles aux piluliers, qui désirent les recevoir 4 semaines à la fois? Eh bien, la réponse est oui. Il est prévu à l'entente qui réunit les tiers payeurs privés, les TPP, les assureurs privés et l'AQPP, que les patients prenant des médicaments chroniques pour une durée de 28 jours ou moins peuvent être servis sous forme d'un pilulier, si le patient, bien sûr, correspond aux critères d'éligibilité et que la justification de l'utilisation du pilulier est documentée au dossier patient. Vous trouverez les précisions sur les critères d'éligibilité à la règle 6 de l'entente. Le lien vers l'entente est disponible dans les notes du balado. Pour ces patients qui répondent aux critères d'éligibilité au pilulier, les frais de mise en pilulier doivent être inclus dans le prix usuel et coutumier que vous serviez pour 1 ou 4 semaines. Ceci aura pour effet là, que pour un même médicament, même quantité, même durée, vous aurez donc deux prix ou des prix usuels et coutumiers différents. Un qui sera applicable au service en viale, un autre qui sera applicable au service en pilulier. Notez que pour les patients qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité au pilulier, les frais de mise en pilulier peuvent être facturés, mais doivent être à part. Donc, le patient aura des frais de mise en pilulier distincts sur sa facture, en plus du prix usuel coutumier facturé pour ses médicaments qu'il prend. Pour la deuxième question de la semaine, on nous a demandé « Comment dois-je facturer les médicaments chroniques disponibles en format de 28 jours? » Donc, la réponse, ça dépend là, du format commercialement disponible. Ici, on doit se référer à la règle 19 de l'entente AQPP-MSSS. On y prévoit certains cas dans lesquels on peut utiliser le code O, donc obtenir l'honoraire mensuel complet. Donc, de façon générale, le service du médicament, d'un médicament qui est chronique, si c'est un médicament sous forme orale, ça va être facturé selon un code N, même s'il est servi pour moins de 30 jours. Cependant, la règle 19 prévoit plusieurs exceptions qui permettent de facturer un code O. L'une de ces exceptions est celle prévue au point 19B, là. Puis c'est celle qui décrit qu'on peut servir 28 jours de traitement lorsque le seul format d'emballage disponible commercialement correspond à une durée de 28 jours. Alors, à ce moment-là, un code O va pouvoir être facturé. Par exemple, on pense au service pour une boîte de contraceptif oral, comme exemple du Alès 28. Le seul format commercialement disponible correspond à 28 jours de traitement. On peut donc facturer un code O dans ce contexte-là, en servant une boîte de médicaments. Si vous avez choisi de servir deux boîtes, ou si votre patiente en fait la demande, donc ici c'est 56 jours de traitement, le code de facturation va alors être un code N. Je vais également apporter une précision. La notion de seul format d'emballage disponible commercialement, prévue à la règle 19B de l'entente, qu'on vient juste de décrire, s'applique aux dénominations communes et non à un produit précis. Donc, si un médicament servi est commandable à un autre format, même si ce n'est pas celui que votre patient prend, le code O ne sera pas applicable. On peut penser notamment à certains bisphosphonates disponibles dans une boîte de 4. Même si vous choisissez de servir ce format-là pour votre patient, il ne s'agit pas du seul format disponible, donc vous ne pouvez pas facturer le code O. Ici, ça sera un code N. Il arrive aussi qu'un patient prenne, pour des raisons personnelles ou médicales, le médicament dit « original », « novateur ». Même si la version originale du médicament est disponible uniquement en format correspondant à un 28 jours de traitement, si le médicament générique est disponible dans un autre format, le code de facturation sera N et non O, puisqu'un autre format peut être servi pour la même dénomination commune. Ça conclut déjà le 5e épisode de la 3e saison de Minute Pharmacie. J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions ou commentaires à l'adresse affaires-pharmaceutiques@aqpp.qc.ca. Je vous rappelle de consulter nos ressources pour rester bien informé au sujet de votre profession. J'en profite pour remercier Geneviève Pelletier, notre invitée de la semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle dans 2 semaines.